Bonjour Serge.
Oui, bonjour.
Passez une belle semaine.
Très belle semaine de relâche.
Oui, mais ça n'a pas été en relâche du côté politique, en tout cas.
Non, loin de là, il doit y avoir des chroniqueurs qui ont regretté d'avoir pris une semaine de vacances cette semaine parce qu'il y aurait eu de la belle matière, de bien belle matière.
Oui, mais au fédéral, ça n'arrête plus, là, je veux dire.
Ça n'arrête plus. Ça a commencé sur des chapeaux de roue avec la démission de Mme Philippotte.
Ouais. Bon,
Mme Raybould, ça durait depuis quelques semaines déjà.
Ouais.
Mais là, que s'ajoute Mme Philippotte, là, on vient de passer un degré supérieur de crise.
Ouais.
Pour le gouvernement de Justin Trudeau.
Penses-tu que ça peut avoir un effet d'entraînement, surtout avec là, la sortie de Justin Trudeau ce matin?
Oui, bien, c'est sûr que, puis on l'a vu avec un sondage qui a été diffusé hier, que déjà, dans les intentions de vote, ça a un effet. Et, parce que Mme Philippotte, il faut bien le dire, hein, c'était une grosse pointure.
En Ontario. Hein?
En Ontario, particulièrement. Ouais. Alors, ça fait mal au gouvernement. Est-ce qu'ils pourront s'en remettre? Bon. La suite des choses nous le dira. Mais enfin, le premier ministre, on en parlait la semaine dernière, c'était le temps qu'il fasse une intervention publique, ce qu'il a fait ce matin. Écoute, moi, je considère que, bon, c'était évidemment la chose à faire. C'est venu tard, mais vaut mieux tard que pas du tout.
Oui.
Et ça venait à la suite du témoignage de son ancien secrétaire général, M. Botts, hier.
Qui confortait, en quelque sorte. C'était comme la suite logique du témoignage de son ami, d'ailleurs, d'enfance et adjoint personnel jusqu'à tout récemment, M. Botts.
Effectivement, puis je pense qu'on a mieux compris un certain nombre de choses.
Ouais.
Notamment le fait que lors de la fameuse rencontre de septembre de M. Trudeau avec Mme Raybould, il lui a demandé, elle avait mentionné qu'elle avait dit au premier ministre qu'elle avait déjà pris sa décision, mais il lui a demandé de chercher une solution, de revoir cette décision-là, comme la loi le permet d'ailleurs.
Et d'aller chercher des avis externes.
Voilà.
Ouais.
Et ce qu'elle aurait accepté, selon ce que lui a dit, alors qu'elle, sa version, c'est davantage, bien déjà, j'ai indiqué au premier ministre que ma décision était prise.
Mm.
Mais la suite des choses nous démontre qu'effectivement, au bureau du PM, qui on avait demandé de faire le suivi, bien, on croyait que l'affaire n'était pas réglée définitivement.
Ouais.
Il y avait toujours place à réflexion. Et ce que vous dites, le recours à un avis externe, on parlait d'une ancienne juge de la Cour suprême, ça pourrait permettre d'avoir une réflexion plus en profondeur. L'autre chose qu'on a appris, c'est que ça confirme un peu ce que laissait voir son témoignage, c'est que sa décision a été prise très rapidement, en l'espace de 12 jours, dont 7 jours où elle était en vacances aux îles Fidji.
Mm-hmm.
Pour un enjeu de cette importance-là, c'est pas beaucoup. Et je pense que sa compréhension, ce qu'on peut en déduire, c'est sa compréhension à elle. Là, la décision avait été prise par la directrice des poursuites pénales et qu'elle ne voulait pas exercer son pouvoir discrétionnaire que lui accorde la loi pour revoir cette décision-là, puis s'il arrivait à la conclusion que c'était pas la bonne, bien là, elle aurait dû s'en expliquer par un avis public dans la Gazette officielle, et un avis externe aurait pu lui permettre d'effectivement d'envisager cette option-là. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'elle n'a jamais accepté de l'envisager, malgré que le premier ministre lui demandait de le faire.
Malgré tout ça, malgré qu'avec les explications, on tend à penser quasi que ça aurait été une bonne chose si l'ex-ministre avait, entre autres, pris acte des suggestions, mettons. Elle, ce qu'elle a peut-être pris comme étant de la pression. Puis remarquez que là, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. On s'entend là-dessus. Mais au-delà de ça, au bout du compte, ça reste encore. Puis je me répète, mais c'est une question de perception politique à l'endroit de Trudeau versus l'ex-ministre de la Justice.
Oui, c'est sûr que là, ça devient une question de crédibilité. À qui est-ce que les gens accordent leur confiance? Un sondage révélait aussi que les gens prêtaient davantage foi à ce que Mme Raybould disait, qu'à ce que le premier ministre avait dit jusqu'ici. Est-ce que son intervention de ce matin va changer les choses un peu?
Ouais.
Peut-être. Une autre chose, moi, qui m'a frappé, c'est le fait que ça a été confirmé par le sous-ministre de la Justice hier. C'est le fait que le ministère du premier ministre, le conseil privé, a demandé un avis au ministère de la Justice à l'effet de voir quelles seraient les conséquences si SNC-Lavalin était reconnu criminellement coupables des accusations qui pesaient contre eux. Et cet avis-là a été préparé par le ministère et sur l'ordre de la ministre de la Justice, Mme Raybould, il n'a jamais été transmis.
Ça a été bloqué.
Au bureau du premier ministre. Ouais. Ça, je pense que c'est un peu curieux pour la même équipe gouvernementale. Là. On ne parle pas des gens qui sont
à fond. Est-ce que, justement, avec ce que Botts a dit, ce que le premier ministre, ce qui sort de plus en plus sur, je vais appeler ça un bocage, même le blocage de la ministre, est-ce que c'est pas ça qu'on tente justement de faire ressortir pour qu'au bout du compte, finalement, c'est quasi elle qui passe pour la poffine?
Je pense que c'est ce que retiennent, ce que le bureau du premier ministre retient de cette histoire-là, puis c'est leur version, puis Monsieur Botts, M. Trudeau ont été dans le même sens. Et vous savez, M. Trudeau, ce matin, il répondait pas à toutes les questions.
Non, non.
Mais au moins, il s'est prêté à l'exercice. Et,
c'est un gros exercice de relations publiques aussi. On s'entend qu'il se devait de faire quelque chose.
Oui, non. Effectivement, puis c'est venu sur le tard, parce que pendant des semaines, il a livré des formules toutes faites qui ne disaient pas grand-chose et qui n'allaient surtout pas au fond des choses, alors que sa ministre, elle avait témoigné pendant 4 heures.
Puis il faudra voir aussi les impacts à long terme, c'est-à-dire jusqu'aux élections, ce que ça va vraiment traîner jusque-là. Ça va dépendre aussi de ce que l'opposition va en faire.
Oui, puis l'opposition, écoutez, il joue ça très durement. On réclame la démission, on réclame une enquête gouvernementale, alors que de l'aveu même de Mme Raybould, il n'y a rien eu illégal dans ce qui a été dans ces discussions-là. Et puis, écoutez, on parlait de 20 courriels ou rencontres. Puis M. Botts, il disait, écoutez, pour un dossier qui est censé être majeur, là, on parle d'une entreprise de 9 000 employés au Canada, 50 000 au travers le monde. Il ne disait pas comme ça, là, mais ce qu'il voulait dire, c'était des pinottes, là, parce que sur d'autres dossiers majeurs, on parle de centaines de rencontres. Alors, en 4 mois, qu'il y a eu 20 interventions. Puis, une chose aussi qui pose question, c'est pourquoi la ministre, si elle considérait qu'elle était victime de pression aussi indue, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas... Vous savez, quand quelque chose qui ne va pas dans l'entreprise, à un moment donné, t'en parles à ton boss. Là, ce qu'elle n'a jamais fait de son propre aveu et de la vie du premier ministre.
Mais c'est quoi, elle avait peur de lui? Parce que les pressions venaient de l'entourage du PM,
peut-être? Que ça semble être devenu majeur pour elle à partir du moment où on l'a changé de job. Maintenant, est-ce qu'on pense que l'affaire SNC-Lavalin n'a rien à voir dans le changement de poste de Mme Raybould? Je ne le crois pas. Mais je vous dirais que, compte tenu de de sa fermeture, moi, je comprends qu'on l'ait changé de poste. Très bien.
Serge Paquin, vous avez été conseiller municipal combien d'années?
27 ans.
27 ans. En 27 ans, des échanges verbales corsés, animés au conseil municipal, vous en avez vu quelques-unes de ces discussions quand même assez fermes avec des conseillers conseillères.
Oui, mais je vous dirais que je n'ai pas souvenir que ce soit des... déroulé d'une façon non respectueuse. Oui, il y avait des échanges vigoureux parfois, mais ça se... puis je l'ai présidé, les séances du conseil municipal, pendant 8 années. Et il y avait 20 personnes qui y siégeaient, non pas 15 comme maintenant. Et je peux vous dire que ça se déroulait dans le respect. Puis j'ai souvent félicité mes collègues, d'ailleurs, pour leur discipline. Et quand j'entendais les extraits de réunion de lundi où M. Tremblay interrompait à plusieurs occasions Mme Bergeron qui présidait la séance. Écoutez, moi, j'ai jamais assisté à des choses comme ça. Je trouve ça carrément impoli. On fait pas ça.
Vous n'êtes jamais fait traiter de maîtresse d'école?
Non, je suis jamais fait traiter de maîtresse d'école. Non, ça n'est jamais arrivé. Écoutez, je pense pas que ça pourrait faire l'objet d'une amende avec la nouvelle réglementation. Je considère pas que c'est une insulte, mais c'est peut-être un manque un petit peu de convenance.
Oui. Bien, c'est le ton.
Oui,
c'est dans le contenu, c'est une chose, qu'on ait des arguments, qu'on ait des opinions contraires, qu'on les manifeste. tout est souvent dans le ton et de la façon d'amener nos opinions et arguments en échangeant avec les autres élus.
Mais vous savez, quand ça se passe dans un forum public comme doit l'être une séance de conseil municipal, il faut suivre un décorum. Donc, respecter les droits de parole des uns et des autres. Et le président n'a pas une tâche toujours facile. Alors, je pense que chaque membre doit le respect au président qui a la charge de conduire l'union.
Et c'est la même chose pour les citoyens. Je veux dire, c'est arrivé quelquefois que vous avez dit aux gens, puis j'ai le souvenir, dire, écoutez, si vous voulez qu'on réponde, premièrement, parlez-nous comme du monde. Là.
Effectivement. Écoutez, c'est arrivé que j'en ai expulsé à deux occasions aussi. Là. Bon, quand les gens ne veulent pas respecter les règles du jeu. Et à chaque début de séance, d'ailleurs, je rappelais quelles étaient ces règles du jeu. Je pense que Mme Bergeron
fait
la même chose. Alors, les gens sont bien informés du cadre dans lequel ils doivent...
Est-ce que vous avez déjà expulsé un élu?
Non, jamais.
De par leur comportement, leur déclaration? Parce qu'on l'a entendu, ça, à la séance de lundi, quand M. Tremblay, justement, apostrophait Mme Bergeron. On a entendu, on devrait le sortir. Est-ce qu'une règle à dire qu'à un moment donné, quand un élu autour de la table dépasse les bornes, c'est bien plate, tu prends tes affaires, puis bye-bye, là?
Oui, ça fait partie des règles du jeu. Le président du conseil, c'est lui qui a l'entier contrôle sur le déroulement de la réunion. Alors, si un élu refuse d'obtempérer à ce que le président lui demande,
Comme la maîtresse d'école, on l'envoie chez le directeur. C'est un peu ça.
Oui, c'est ça. Mais là, je ne sais pas qui jouerait le rôle de directeur en l'occurrence.
Bien, c'est ça. Je veux dire, mais la règle, exemple, on expulse, c'est tout ça est lié au code d'éthique, probablement, du conseiller ou de la conseillère?
Est-ce qu'il y a des éléments là-dessus dans le code d'éthique? Je ne pourrais pas vous le dire, mais c'est dans le règlement. Okay. Le règlement adopté par les membres du conseil, les procédures délibération des membres du conseil, c'est écrit. Et notamment d'observer ce que le président d'Assemblée...
Puis il faudra voir aussi toute la définition qu'on donne à injure, insulte...
Oui, ça, c'est des cas d'espèce. Ouais. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que maîtresse d'école, c'est pas une injure, mais ça veut pas dire que c'est convenant et que c'est respectueux.
Ouais. Serge Paquin, merci.
Merci, M. Bonne
semaine.
Au revoir.